c'est possible aussi pour vous de vous approprier cette activité. Donc il ne faut pas hésiter également à entendre. Voilà, bah, j'ai beaucoup parlé. Je passe la parole à Hélène, que je remercie d'avoir organisé cette conférence. Et puis je remercie également tous les intervenants de se prêter au jeu pour ce soir.
Surtout si on est neutre.
Alors, vous êtes évalués, c'est différent. Mais je pense que, je pense que ça devrait bien se passer. On gardera les résultats pour vous. voilà, bah, merci.
Merci Sylvain, au revoir. La petite boîte blanche qui est là, c'est le micro du soir, donc ce que nous disons va être enregistré. C'est amusant. Oui, cette histoire de notation à la sortie, c'est pas pour me noter, hein, c'est juste pour savoir si vous avez d'autres idées pour les conférences après. On n'est pas noté. Voilà. Donc moi je suis Hélène Degout, je suis membre de Collectif Prod depuis une petite année, et je suis réalisatrice. Il y a beaucoup de, y a des conférences ici qui sont faites autour de la série télé, peut-être son premier long, le marché du court métrage, le métier d'agent, etc. Tout ça c'est très bien et comme je suis entrée dans l'équipe qui organise les conférences, j'avais un peu envie de revenir vers comment on fait du cinéma et des films aussi pour la télévision. En fait. Donc j'ai pensé à OSE. Je vais présenter les quatre messieurs qui sont là avec moi. Je voudrais juste savoir, en fait, pour faire connaissance avec vous rapidement, quels sont les gens parmi vous qui ne sont pas des gens qui travaillent dans le son ? Et donc le reste, c'est mixeur, musicien, monteur son, etc., j'imagine. D'accord.
Qui sont réalisateurs ?
Qui est réalisateur ? Voilà. Et je vais prendre. Je commence. Donc. Monsieur Philippe Daram, qui est compositeur de musique de film et qui a aussi une certaine pratique pédagogique, raconter rapidement pourquoi est-ce que j'ai appelé Philippe. C'est parce que j'ai rencontré il y a un mois, tout le monde, en fait, dans un festival de court métrage où j'avais le grand honneur de présenter un court métrage, et en tant que réalisatrice, et Philippe était président du jury. Et le membre du jury, pardon, président des Pinotto. Et quand il s'est agi de demander aux membres du jury à quel point ils avaient été heureux de participer à ce festival, Philippe a dit très crûment qu'il n'avait pas trouvé que les musiques étaient intéressantes. Donc du coup, c'est bien de demander maintenant comment est-ce qu'on fait une musique intéressante au cinéma. Donc merci d'être venu.
Ça avait déjà fait l'objet d'un débat.
On est là pour continuer. Thierry Lebon, qui est à ma gauche, est mixeur. Il a fondé la société Mergiture il y a 20 ans.
30.
Voilà, 30 ans. quelques-uns des films qu'il a fait étaient sur la brochure de présentation, c'est pas vraiment la peine d'en rajouter. J'ai eu le plaisir de travailler avec lui à deux occasions sur les courts-métrages. Et
sur tes courts-métrages.
Un de moi et un de moi. Jérôme Vissiac, ici, par coïncidence, connaît Thierry, mais c'est pas comme ça que j'ai eu contact avec lui, c'est par des monteuses interposées. Voilà. Je souligne qu'il y a des femmes dans le métier, parce qu'il y en a quatre messieurs ici, c'est vrai que les monteuses à l'origine. Et Philippe Benoît, là-bas au bout, chef opérateur du son, et là aussi, c'est par des connaissances interposées. Voilà. Donc merci à tous les quatre. L'intitulé de la conférence, j'ai eu un petit peu de mal à l'élaborer. C'était d'abord écrire la bande-son pour le film, écrire son film avec la bande-son. Bon, c'est resté un peu flou. Tout ça pour bien souligner en fait que une bande-son, d'une part, ça s'élabore par plusieurs étapes, et en plus, c'est une des étapes d'écriture du film. Voilà. Donc pour commencer à en parler, je vais commencer presque de manière chronologique dans la manière dont on fait un film, on va bien vite voir qu'en fait c'est pas si chronologique que ça. Philippe, merci. Vous faites de la fiction, du documentaire institutionnel ?
Oui, je fais moins de fiction, j'en ai fait pas mal, mais oui, du documentaire, de la pub, principalement.
D'accord. Et votre formation initiale, ça, si ça vous intéresse de la dire, si vous trouvez que c'est pertinent ?
Oui, j'ai fait l'école de lumière en 1977. Donc, voilà, c'est il y a longtemps.
Après,
c'est formation sur le tas, quoi, avec les gens que j'ai rencontrés.
Et dans l'objectif direct de devenir son derrière, ou c'était...
Disons qu'à l'époque, c'était pas si net que ça. Moi, je voulais devenir musicien professionnel. Et j'avais un groupe et tout, et ça s'est un petit peu mal goupillé au bout d'un moment. Donc, je me suis retrouvé un petit peu bec dans l'eau. Donc, j'ai cherché des études qui pouvaient me correspondre. Et en fait, je suis tombé sur Lumière parce que c'était déjà une école qui avait une bonne renommée. Et qu'en plus, moi, techniquement, j'étais surtout musicien. Donc, voilà, j'ai trouvé ce débouché-là, je l'ai pris et j'ai bien fait suite à trouver. Puisque dès que j'ai fini l'école, j'ai trouvé du travail, j'ai travaillé avec des gens intéressants, pour me regretter François, dont on parle.
On parle de François Gros.
Oui.
Qui est décédé il y a très peu de temps. Donc, moi je reprends, comme on a déjà parlé, je prends mon statut de béotienne, réalisatrice débutante qui veut faire des cours avec le plus de bonne volonté et d'application possible. Il faut que je trouve un chef opérateur du son pour prendre son direct sur le plateau. À part le réseau, les copains des copains, les annonces sur finance.org, est-ce qu'il y a des critères que vous pourriez me donner ou m'indiquer pour m'adresser à un jeune opérateur du son et lui parler de ce que je fais, lui parler de mon scénario d'une manière pertinente? Est-ce que c'est le scénario qui vous guide?
La lecture du scénario est bien sûr primordiale. Après, les critères, vous voulez dire, vous, de votre part, des critères
est-ce qu'il y a une manière dont je puis vous parler de mon film qui vous permettra après de commencer à travailler en prépa?
Je crois déjà que la lecture du scénario est déjà très... Bon, évidemment, la lecture du scénario est primordiale. Elle permet un tas d'annotations, de voir un peu les conditions dans lesquelles on va tourner. Après, les questions qui sont vraiment importantes aussi, c'est est-ce qu'on est en décor naturel, est-ce qu'on est en plateau, est-ce que vous prévoyez de la post-production. Tout ça détermine... déjà donner une première approche.
Quand vous dites post-production, c'est...
De la post-synchronisation, de savoir un peu aussi le budget. Enfin, tout ça, c'est très lié, évidemment, enfin, au contenu du scénario, de savoir ce que c'est comme film. Quoi.
Et une fois que ces renseignements-là sont acquis, une fois qu'on en a parlé, quelles conséquences ça a? Est-ce que ça a des conséquences directement sur le choix du matériel que vous allez prendre chez Word, que vous allez choisir dans votre stock?
Oui, pour être un petit peu schématique, disons que si c'est un huis clos à trois personnes et que c'est tourné avec une caméra en champ contre champ, oui, on ne va pas prendre le même matériel que s'il y a beaucoup de monde, s'il y a des cascades, s'il y a des prises de vue de loin, etc. Donc on peut peut-être faire un peu l'impasse, par exemple, sur les micros HF, les micros sans fil, etc. Oui, ça détermine quand même le choix du matériel d'une façon assez importante.
Le budget, un micro à trois personnes, un petit budget, un gros budget, vous prendrez quelque chose différent,
on peut réduire le budget de façon significative. Maintenant, on a beaucoup de choix, on a une palette de matériel très importante.
Une palette de matériel avec des prix extrêmement différents,
oui,
et une qualité à l'arrière que...
La qualité, elle est à peu près sensiblement la même. Hein. Maintenant, on arrive à l'ère du numérique, on arrive à avoir une qualité de base qui est toujours la même, hein, et donc qui sera conservée tout au long de la chaîne jusqu'au mixage, et même jusqu'à la diffusion. Après, c'est plus en termes d'artillerie, quoi, de nombre de voix, de HF, de choses un peu plus... Voilà. Donc, si on prend un enregistreur à deux voix... ça ne coûtera pas le même prix que si on prend un Cantar, par exemple, avec une console, avec une batterie de HF, ça, donc, c'est sûr.
Et aussi, est-ce qu'il est pertinent des scénarios, dès la préparation, d'en parler, hein, quand on parle avec le chef opérateur du son, d'aborder des choses un peu artistiques, un peu créatives? Est-ce que je peux vous montrer d'autres films en disant, voilà, ça c'est un truc qui m'intéresse? Est-ce que en tant que chef de son du direct, ça a des conséquences sur ce que vous allez faire?
Moi, je dirais pas tant que ça a une incidence directe sur le matériel, parce que la chose qu'on essaye de faire, bon, là je parle du dialogue évidemment, après lorsqu'on fait du documentaire et qu'on va chercher des sons d'ambiance, etc., c'est un petit peu différent. Bon, surtout que maintenant il y a la prise de son à micro multiple, donc ça c'est encore différent. Non, mais ce qui est intéressant, je pense, dans la discussion avec le chef opérateur son avant le tournage, c'est pour éventuellement déterminer des dispositifs qui feront que ça facilitera la vie après en post-production, et même pour pouvoir séparer les sons, pour pouvoir se retrouver. Parce qu'on a, moi je trouve qu'on n'a pas, je sais pas, bon, peut-être d'autres personnes, depuis que maintenant on a le matériel qu'on a, c'est-à-dire avec des possibilités d'enregistrer en multipiste sur les tournages, avec des micros qui sont d'une qualité excellente, on est plus à conserver, comme on est le premier maillon de la chaîne, à faire un son qui a une réelle qualité et qui va être, il est toujours possible, Thierry dira, de détimbrer un son, de le rendre plus lointain, mais bon, un son qui n'est pas bien timbré, qui n'est pas bien, qui n'a pas un spectre correct et tout, c'est très difficile de le restaurer.
Excusez-moi, mais j'ai posé des questions béotiennes, ça veut dire quoi, détimbrer un son et un spectre correct?
Détimbrer un son, je sais pas, on peut donner un exemple simple. Quand quelqu'un vous parle de face, ou quand quelqu'un vous parle de face et quelqu'un vous parle comme ça, le son n'a pas la même teneur, donc il n'a pas la même.
Et ça, c'est une manip que vous pouvez faire en prise de son direct?
Ah bah oui, si on peut détimbrer, ah, très bien. C'est-à-dire, alors, on peut détimbrer, c'est-à-dire que si moi, bah, c'est Thierry qui vient de le faire, hein,
le micro.
Mais par contre, ce que je disais, c'est que si on prend un son bien timbré et qu'à un moment, pour une raison artistique quelconque, on a besoin de le détimbrer, en post-production, c'est possible. Retimbrer un son qui est mal timbré au départ, c'est possible, mais ce n'est pas aussi probant, en
tout cas. Et le spectre?
Le spectre, c'est les graves et les aigus. Quoi.
Et donc un spectre correct, c'est quand les graves et les aigus sont... qu'on
reproduit un peu ce qu'on entend. Enfin, pour moi, c'est un peu... C'est un raccourci, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est pas un son qui manque d'aigu, qui est tout bouché, ou un son qui est tout coin-coin, qui n'a pas de grave.
Je vais poser une question. Oui. Quels sont tes rapports sur le tournage? Parce que ça doit intéresser les réalisateurs, les rapports avec le réalisateur et les comédiens, par exemple. Parce qu'on parle de matériel, mais en même temps, c'est...
Ah bah oui, non, bien sûr. Bah, moi, oui, ce que je disais, c'était quand même... En amont, on peut déterminer qu'est-ce qui serait mieux de faire comme dispositif sur le tournage pour arriver à avoir les sons le plus séparés possible, le plus propre. Avec les comédiens, ça arrive qu'on leur dise de plus timbrer, de plus porter, de parler plus fort, quoi, des fois. Après, il y a d'autres. Il y a d'autres aspects plus techniques, c'est-à-dire la pose des HF, des micros, en fiction, il ne faut pas qu'on les voit, donc ça, c'est un petit peu aussi des rapports rapprochés.
Les rapports humains qui sont très importants. Vous trouvez ça pas sur un plateau, c'est pas évident. Pour tout le monde, d'ailleurs. Justement, à propos de place sur le plateau, comment est-ce que vous choisissez le perchman? Est-ce que vous avez quelqu'un avec qui vous travaillez régulièrement? Est-ce que... C'est en fonction de ce qui va se tourner
Moi j'ai l'habitude de travailler assez souvent avec les mêmes personnes. C'est en général des garçons qui sont grands et qui s'imposent. Quoi. Oui, souvent, qui s'imposent surtout. C'est important.
Parce que oui, la pose des
échecs,
c'est pas bien.
Non, c'est délicat aussi.
Vous pouvez dire pourquoi vous dites s'imposer?
Ça veut dire qu'il rentre dedans, il sait où il peut mettre son micro. S'il n'y a pas de possibilité de suivre le déplacement, mais il s'impose, c'est lui en fait qui est...
Par rapport aux autres membres du tournage.
Oui, c'est ça, oui, par rapport au reste de l'équipe.
On prend des initiatives.
Au son direct, on est deux en général, voire trois. Et les électros, les machinaux, ils sont 52. Et après, de l'autre côté, il y a le chef op qui est le chef suprême du tournage. Il faut faire sa place.
Vous avez le droit de refuser un décor maintenant?
Sûr que si jamais ça, refuser un décor. Non, non.
En repérage?
En repérage, un décor naturel.
Est-ce qu'on vous laisse faire. J'imagine ça a dû arriver que vous disiez oh là là.
Bah, j'ai dit oh là là, oui, mais j'ai, voilà, j'ai fait, je me souviens du but, j'ai fait vraiment oh là là pendant tout le tournage. Je suis allé voir à la fin de la première demi-journée, je suis allé voir le réel, je lui ai dit bon là c'est du son témoin qu'on fait, et puis en fait ça n'a pas été du son témoin du tout. Mais bon, c'était un regard, c'était épouvantable. Enfin, pour des scènes un peu intimistes, ça ne marchait pas du tout. Pour moi, pour eux. Enfin, il y a des machines excellentes hein, maintenant, et même des machines quand elles arrivent. Bref.
Il y a
un
doute à ma droite.
Oui,
non, moi, ce que je dirais par rapport à la discussion entre le chef op et le réalisateur, c'est ce qui le. Veut avoir sur le plateau. C'est-à-dire que, il faut qu'il ait conscience que tout ce qu'il n'a pas eu sur le plateau, ce sera très difficile pour lui de le réavoir plus tard. Alors, finalement, on peut toujours enregistrer les sons, les gens, les voix. Mais quelle est, lui, sa priorité par rapport au décor alors, moi, je ne fais pas de plateau, hein, j'interviens après, une fois que le son est enregistré. Et je suis souvent témoin. Tout d'un coup, ce regret de se dire pourquoi j'ai choisi ce décor, pourquoi j'ai accepté de tourner bord d'une route, pourquoi ce. Voilà, c'est vrai que l'ingénieur du son m'avait dit que ce serait difficile et maintenant. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une contingence financière qui est très importante parce que repérer les décors, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, il faut déplacer, chercher. C'est très difficile d'avoir tous les décors au même endroit, alors est-ce qu'on met les gens à l'hôtel, est-ce qu'on les déplace et très souvent il y a un rapport on va dire financier et aussi d'ordre de la régie, hein, savoir comment organiser le tournage. Et on essaye de mettre plus de décors naturels au même endroit en fait. Le compromis n'a jamais a rarement lieu au niveau de l'aspect esthétique et visuel, mais très souvent, moi j'ai l'impression qu'il manque au niveau du son.
C'est le son qui s'aide pas.
Bien sûr, mais pour des raisons simples. C'est-à-dire que c'est très facile de. Enfin, ça semble très évident de faire venir un comédien post-synchro, de faire redoubler. C'est très compliqué de fabriquer un lieu de gare, un aéroport, une autoroute. Voilà. Donc il y a tout d'un coup un truc où on se dit, c'est pas grave, on le refera en post-prod. Or, ça peut être des fois un choix très douloureux de le refaire. Alors, je ne dis pas qu'il faut toujours tout faire de direct et ainsi de suite, hein, mais moi, je n'ai pas beaucoup, c'est 13 ans ou 12 ans que je travaille, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a maintenant cette phrase qu'on dit beaucoup, on l'entend post-prod, et c'est pas critiqué par rapport à retirer à la réverb, c'est qu'il y a dans l'imagination collective, surtout des directeurs de production qui participent intensivement à cette recherche de décors à l'épargne sur le plan de travail, mais maintenant, avec toute leur machine, leurs ordinateurs, ils vont pouvoir nous arranger les bidons, et ça sera formidable. Eh bien non, ça ne sera pas forcément formidable, et ça sera, on va dire que le compromis qui n'a pas été fait au moment du plateau, il devra être fait plus tard. J'aimerais bien vous dire que c'est toujours une leçon, toujours un élément gagnant-gagnant. Mais non, en fait, si on renonce, on va dire, à un confort ou à une qualité de prise de son, il y a un moment où on va devoir soit réinvestir son temps-là dans un travail sur un plateau de post-synchro, à refabriquer les éléments, voilà. Quelque chose d'important, il y a une balance comme ça qui s'opère, parce qu'à l'inverse du... traditionnel où les choses sont sur le plateau, le son, comme on le voit là, est une étape très détachée en fait. C'est-à-dire que sur un long métrage, on va dire, il y a 5 à 9 semaines de tournage, et puis en fait, le son il commence par le jour des repérages et il finit lors du mixage. Donc c'est une étape très très longue avec beaucoup d'intervenants où à chaque fois on doit entre guillemets payer son tribut. Je dis ça avec aucune méchanceté, mais. Le fait toutes les décisions qui sont prises au début de la préparation en disant on le verra en post-prod, j'interviens en post-prod donc je dis d'autant plus non, il ne faut pas le voir en post-prod, il faut le voir dès l'écriture, dès le repérage, dès le choix du décor. Parce que c'est des choix très très lourds, on parle de scène intimiste, c'est souvent des choses très difficiles à faire pour les comédiens. Qui nécessite de la répétition, du jeu, de l'investissement, une humeur. Des fois, un échange verbal comme ça de quelques phrases peut prendre 2 jours à être tourné. Voilà, donc c'est pas grave, on a pris un bord de route qui était très joli, la voiture qui passe, hop, c'était formidable, on a pris en trouvé un autre, on a tourné, c'est très bien. Puis arrive le moment là, du montage image, on entend ces voitures, cette foule qui passe sans arrêt, on se dit bon bah, on va le doubler. Donc le comédien vient, lui entre temps il a fait le film, il est au théâtre le soir, le matin, l'après-midi, on lui trouve un créneau de 2 heures parce que contractuellement il va se libérer, il vient, donc entre temps plein de choses sont passées dans sa vie. On lui met une petite pièce toute noire et vas-y, Coco, refais ta ligne avec l'intimité, l'émotion, le truc que tu as mis 2 jours à faire, tu vas devoir le faire en 10 minutes.
En principe, ça fait partie de son métier.
Ça fait partie de son métier, mais nous sommes des êtres humains et c'est très difficile. Moi, j'ai une admiration formidable pour ces comédiens qui arrivent instantanément. Moi, je trouve ça très très dur de se remettre dans l'émotion et de refaire le jeu parce que forcément, le réalisateur à ce moment-là, lui, il ne veut pas qu'on redise synchrone avec la voix, il a raison. Hein. Il veut l'intensité, la qualité de jeu qu'il a eu pendant ces 2 jours, en 10 minutes. Or, ce n'est pas vrai, en fait. Ça ne prend pas 10 minutes, ça va prendre parfois beaucoup de temps, ça peut être très très long.
Et très cher.
Pas forcément très cher. Non, ce n'est pas une question.
C'est une
question. Voilà, c'est quel est le temps. Moi, j'ai des souvenirs de films comme ça, pour des séquences de pleurs, où on a mis 5 jours. 5 jours, où tous les jours, la comédienne revient, on essaie pendant 2 heures, elle revient le lendemain, 2 heures, revient le lendemain, encore 2 heures, pour
arriver. Parce que les pleurs sur le plateau en direct étaient...
Parce qu'il y avait une pluie artificielle qui tombait, et c'était... Voilà, le réalisateur n'aimait pas le son de cette pluie artificielle, il trouvait que c'était des pipis de douche, il voulait mettre son pluie, donc... Il a fait le refaire pleurer la jeune fille en l'occurrence. Elle n'y arrivait pas. Et il lui a fallu 5 jours pour y arriver. Alors, on a la chance, elle a une production qui était prête à repayer tous les jours, les autres pas synchro. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de réalisateurs, j'en ai vu, parce que moi je ne parle pas au micro, qui abandonnent. Qui disent, ah, c'est pas grave. Et au final, on se retrouve tout d'un coup, et je pense après.
On reprend le direct.
On reprend le direct, voilà. Avec le truc qui fait pipi de chat et tout ça, et avec la frustration en fait. Ouais. C'est pas une question d'argent, c'est une question de frustration et quelle était à l'origine la ligne sur le scénario en fait. Parce que j'en reviens à ça, ce que tu disais au début, le scénario, c'est tout est là en fait. Le film qu'on verra à la fin, il doit être contenu dans le scénario.
Tu préconises que la personne qui fera le montage son soit là dès le début du dépouillement du scénario. Si elle a le temps,
ça serait bien. Ça serait bien si. Mais c'est très compliqué parce que comme.
Ouais, moi je pense que c'est un peu aussi la conseil. C'est une des compétences du chef-op de tournage, de connaître toute la chaîne, quoi, d'avoir une bonne connaissance du montage et du mixage. Et même de la diffusion, je dirais.
Mais au-delà du moment d'intervenir au moment du scénario, il faut sensibiliser les réalisateurs. Et c'est là où on en arrive tous. Il faut sensibiliser les réalisateurs qu'au moment du tournage, ce n'est pas que le cadre et le jeu des comédiens qui comptent, c'est aussi toute l'équipe technique, respecter tout le monde. Et si tu as un bon son au départ, ben, tu auras un super bon son à l'arrivée. Donc c'est très important pour tous les réalisateurs.
Ouais, moi, ce qui m'a fait tiquer, c'est quand tu dis que tu entends souvent le réalisateur dire que c'est dommage. Des fois, sur ton âge, le réalisateur, tu as l'impression qu'il dit que c'est dommage qu'il y ait un ingé son. Parce qu'un ingé son arrive à être vraiment parfois quelqu'un très casse-pied, qui va faire un nombre impressionnant de prises, parce que c'est pas satisfaisant, parce qu'il y a des couilles, parce que. Voilà.
Oui. Ils finissent par dire c'est dommage. Enfin, ouais. Alors, moi, j'ai vécu ça quasiment tous les films. Hein, ils sont. Les réalisateurs ou réalisatrices. Hein, sont dans l'instant présent et c'est très compliqué pour eux. Et encore une fois, je ne jette pas la pierre, c'est-à-dire qu'ils sont le maître d'œuvre de la fabrication du film, tout le monde les sollicite, la costumière, la maquilleuse, et ainsi de suite. Là où là où c'est très compliqué, c'est-à-dire que par rapport à l'image, on peut toujours faire un petit schéma sur un papier, on peut arrêter un photogramme, on peut faire une photo, un polaroid, et tout. Le son ne s'arrête pas en fait, on ne plie pas des oreilles, on ne peut pas faire un dessin de son, il est tout le temps en mouvement en fait, il a besoin de la dimension temporelle pour exister. Et ce qui rend très difficile la discussion au sujet du son en fait, entre eux, même entre nous, on aurait beaucoup du mal on pourrait très bien parler de, je sais que cette porte est rectangulaire, elle est orange, elle est au fond d'un fond bleu, et vous décrivez exactement cette pièce. J'aurais beaucoup de mal à vous décrire l'environnement sonore ici, en fait.
Le buzz.
Le buzz, oui, voilà. C'est bien dur, en fait.
Ah oui.
Et pour ça, je crois que beaucoup de intervenants sur le plateau vont donner une priorité à des contingences qui semblent immédiatement jugeables. On peut juger de la perruque, du costume, de la lumière, de l'accessoire. Du son, c'est quelque chose de très très difficile. Et c'est pour ça qu'on nous éclairait, on a un devoir de pédagogie. Nous tous, c'est-à-dire que c'est bien beau de se dire « Ah, c'est dommage », après, bah, ça nous, je pense, de faire une démarche explicative, pédagogique, et de pas dire « Ah, bah, dommage », mais au contraire, d'expliquer ce qu'on fait. Et, voilà.
Est-ce que la solution de dire « Bon, on va y arriver, on la tourne en fraction seule après », c'est intéressant de faire ça dans certaines circonstances où, ou mieux quand même garder direct
même si on sait qu'on sera dans des conditions comme ça, c'est un peu ce qui s'est passé sur la publicité dont je parlais tout à l'heure. C'est que bon. C'était Marie, c'était une publicité pour les plats cuisinés.
Avec Marie. Le Dreyfus
ouais, c'était avec Dreyfus. Non, c'était pas Dreyfus, c'était après Dreyfus.
D'accord, il y
en a après
Dreyfus. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Rien, le plateau était c'était vraiment un haut de garde, quoi. C'était immense, toujours. On était censé être dans un appartement et bon, ça ne sonnait pas du tout comme un appartement.
Parce que c'était pas un studio, c'était un peu.
C'était un studio aussi, mais c'était pas un monstre. Okay. Moi, c'est un studio qui tourne. Hein.
Et donc, vous avez fait quoi? Un son après? Aucun direct?
Ah non, mais j'ai tourné en faisant des prises de son avec un micro le plus proche possible des comédiens. Éventuellement, quand c'est pas possible, en cachant, pour que le rapport, pour que la distance entre le son émis par le comédien et puis la réverbération soit à l'avantage du son direct. Quoi. Mais voilà, puis bon, ils ont utilisé, moi je l'ai vu, ça passait très bien. Quoi, mais...
Le doublon perche HF, il est systématique?
Oui, bah oui. Oui, en fait, maintenant je le fais toujours.
Sauf quand les acteurs ne veulent pas de HF.
Oui, enfin des fois, moi je ils ne savent pas forcément.
Est-ce qu'ils
n'ont
pas de la chef ou qui
non, qu'il n'y a. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé avec le réalisateur quand on ne voulait pas, parce que de toute façon, ils n'aimaient pas ça. Enfin, c'était un vrai. Bon, j'en ai mis quand même. Et ça fait des coups.
Ah, c'est le
réel,
tu veux pas
voir
les comédiens, on ne veut pas
en mettre. Ah, les comédiens, oui, moi j'ai jamais eu de trop de soucis.
T'arrives.
Oui, juste une question pratique, toujours pour revenir à est-ce que moi, en tant que réalisatrice ou réalisateur, est-ce que je peux avoir une idée, à quel moment j'ai une idée du son que j'aurai à la fin du film. Avoir un casque sur les oreilles au tournage, c'est pour entendre les dialogues, pour être sûr qu'on les entend distinctement. Voilà. Est-ce qu'il y a des prémix maintenant qui se font à la prise de son?
Oui, ça existe.
Est-ce que c'est quelque chose que le réalisateur, est-ce que c'est pertinent qu'il l'entende?
Bah, il ne peut pas écouter plein de trucs en même temps. Hein. Donc il écoute le prémix ou si, enfin, je sais pas, on peut faire écouter maintenant avec les machines qu'on a, on peut faire écouter aux gens ce qu'ils veulent. Donc s'ils veulent vraiment entendre une réplique particulière, une réaction particulière, on peut choisir ce qu'on leur envoie dans leur écoute. Quoi. Bon, enfin en général, on leur envoie le prémix et puis voilà.
Est-ce qu'il y a des choses toujours en tant que chef op sur le plateau? Il n'avait pas appris à la lumière, qui était pourtant crucial. Qu'est-ce que tu as appris sur le plateau?
À peu près tout, je dirais. Voilà, oui, la lumière. Enfin bon, moi, les années où je l'ai faite, et Thierry l'a fait, je pense, l'année d'avant, deux ans avant, on avait très très peu de parties pratiques, très très peu, hein, dans tout l'enseignement. Donc en fait, moi, tout ce que j'ai appris, c'est ensuite avec les gens avec qui j'ai travaillé, dont j'ai été assistant.
Bon, si je reprends un peu, tout petit peu mon fil chronologique, voilà, je suis au montage image. D'ailleurs, est-ce qu'il faudra aussi qu'on disait, est-ce que le monteur image, il est bien obligé, lui, de s'occuper des directs et de commencer à monter avec? Est-ce qu'à ce moment-là, il peut commencer à aller chercher des éléments, commencer à concevoir une bande-son ou,
Bien sûr, mais évidemment, il est obligé de toute façon. C'est-à-dire que ce qu'on s'est dit à une autre, on s'est rencontré, enfin, pour moi, le premier fabricant, la bande son, est le metteur en scène. De par son scénario, son écriture, le monteur qui va choisir de mettre une musique temporaire, qui va choisir de mettre un dérapage de voiture pour rythmer un plan, ou que sais-je en fait. Les exemples sont très nombreux et en fait, et même nous après quand on intervient, on vient de façon plus fine et plus pointue sur ce travail-là, on utilise énormément le canevas qui a été fait par le moteur d'image avec le réalisateur. C'est-à-dire que c'est un biotique très étrange, le moteur et le réalisateur en fait. Hein, ils vivent ensemble dans tout le film, là, dans une petite pièce, et ils fabriquent cet objet photographique qu'ils vont après transmettre à l'équipe de production son. Et c'est en général la seule indication qu'on a, nous, au niveau de la bande-son. Que très souvent, le metteur en scène dit « oui, je vois un son un peu comme ci, un peu comme ça ». Mais concrètement, le meilleur descriptif de ses intentions réside dans ce qu'on appelle maintenant l'export à vide, mais cette maquette de montage son avec les emplacements en musique, les répliques qui ont été choisies au niveau du direct, les doubles qui ont déjà été choisis, les rythmes sonores qui sont induits par les premiers montages son qui sont faits en fait. Parce que maintenant, très souvent, l'équipe de montage réclame des sons, donc on leur en fournit, ils s'en servent. Ben. Et on reçoit donc un premier montage qui peut aller jusqu'à 16 pistes. Hein, et nous, après, on le réinterprète, mais c'est notre premier élément de dialogue en fait. Qui va des fois être déterminant, qu'on va traîner jusqu'au mixage. Et moi j'ai des exemples pas très loin de moi où tout d'un coup le metteur en scène dit « Ah, je veux retrouver la vie », donc on remet la vie au mixage. Enfin, c'est un truc qui est assez courant, enfin, c'est quelque chose de très très fort en fait, je trouve, cet export à vide. Enfin, c'est pas vide, c'est ce travail en fait, simple, brut, concret de qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je fais écouter.
Il y a un phénomène d'habitude qui se crée dans cette salle de montage image. Il y a un phénomène d'habitude sonore dont on a du mal à se défaire par la suite. C'est-à-dire qu'on met une musique temporaire, par exemple, qui est Bénure ou qui est Brevert, qui est une super musique, etc. Il s'habitue à ça, et après, quand il demande au compositeur de faire une musique originale, on se heurte très 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 souvent à cette problématique d'habitude. C'est pas que la musique est moins bonne, c'est que on s'est habitué à une autre. Tu veux parler ?
Merci pour la transition.
Le Klaus Rosa, c'est un grand quand même.
Je ne veux pas continuer sur la...
Mais c'est bien, ça fait une transition pour m'adresser à vous. Voilà. Merci. Super. Revenir un tout petit tout début. Je vous ai appelé pour préparer cette rencontre. On a reparlé d'un film qu'on a vu donc à Fréjus, qui est un film qui était sur la musique. C'est sur... Donc, le personnage principal était un violoniste. Ouais. Et il y a eu quelque chose, il y a eu un choix dans ce film qui vous a fait tiquer. Sans en donner aucun nom, quoi, ça n'a pas d'intérêt. Est-ce qu'on pourrait juste resituer le film et dire pourquoi est-ce que vous n'étiez pas d'accord?
Ça a été effectivement l'objet de ce débat. Enfin, juste. Pourquoi j'étais pas d'accord?
Juste dire comment a été fait le film.
Oui, sans citer de nom, c'est l'histoire de ce violoniste Joshua Bell qui avait pris son violon, qui était un Stradivarius 1713. Et il avait été dans le métro, il s'était mis dans le métro à New York, il avait joué dans le métro pendant toute une journée. Et il avait ramassé, je crois, 2 dollars, c'est ça ? 8 dollars ? Enfin bon, donc il y avait quoi ? 2 ou 3 personnes qui s'étaient arrêtées pour l'écouter. Donc personne n'avait fait attention à ce violoniste qui jouait les suites partitales pour violon seul de Bach, et qui jouait à merveille, puisque c'était, je me rappelle, c'est vraiment... Bon, ben, il y a un réalisateur français, il ne faut pas citer de nom, qui a repris la même démarche avec Renaud Capuçon, lui on peut le citer, c'est donc un grand violoniste français concertiste, pareil. Et puis, mais l'idée du scénario était intéressante puisque c'était un parallèle entre Renaud Capuçon qui allait donc dans le métro pour chercher un endroit pour s'installer pour jouer dans cette même démarche, et le parallèle c'était qu'il se préparait à donner un concert en soliste pour le concerto pour le violon de Tchaïkovski au Théâtre des Champs-Élysées. Donc, dans toute la première partie du film, il y avait en permanence ce rapport entre les deux. Et bien, le réalisateur a mis une guitare dedans. Une guitare acoustique, et moi, je m'en suis un peu insurgé parce que je me suis dit, mais que fait cette guitare-là? Alors, le réalisateur m'a dit, mais c'est une musique originale. Je dis, très bien, si on écoute cette guitare-là en dehors du film, elle est très bien, cette musique. C'est pas la musique qui était en cause, encore moins le compositeur, c'était le choix de la musique sur ce passage-là. Ben, c'est ce que j'ai dit. Mais bon, encore une fois, la musique, c'est tout à fait subjectif. Moi, effectivement, j'enseigne la musique dans l'école de cinéma. Je donne des conférences de sensibilisation sur le pouvoir de la musique à l'image. Donc, je me suis impliqué là-dedans. Donc, je prends position. Voilà, on aime ou on n'aime pas, mais j'ai pris position du roi. Et le réalisateur, évidemment, il n'a pas aimé.
Il défendait fermement sa position. Vous m'avez dit qu'un des principaux pièges pour le réalisateur, c'est d'utiliser la musique qu'il aime.
Pas pour le réalisateur, pour le compositeur aussi. Moi, je connais des compositeurs qui, quand ils vont faire une musique, ben, moi qui ai pas mal d'étudiants qui font des courts-métrages d'école, ils me disent c'est dingue, ça y est, j'ai trouvé une musique, tout. Bon, ben, ok, on essaye, et puis effectivement, c'est une musique qu'ils écoutent. Bon, on va pas faire des conflits de génération ici, mais c'est vrai que les jeunes à l'heure actuelle écoutent beaucoup de musique synthétique, choses comme ça. Bon, ça marche dans certains cadres, très bien, mais sur l'image, ça marche pas toujours. Il faut pas. Donc, et c'est vrai que c'est le premier piège, c'est de mettre la musique qu'on aime bien. Mais j'ai dit toujours cette phrase-là, de toute façon, hein, méditez bien là-dessus, c'est qu'une musique, à qui doit-elle plaire? Vous allez me répondre au cinéma. À qui doit plaire une musique? Au public, non. Au réalisateur, non. Au producteur, non. À l'image, absolument. Bravo. Alors, à l'image, évidemment. Bon, évidemment, réalisateur, producteur, si vous voulez, bien sûr, compositeur lui-même, mais le juge de paix sur une musique, c'est l'image. Alors, puisque j'ai des collègues pour leur descendre à côté, évidemment, on va se heurter forcément, nous autres compositeurs, au travail du son. Parce qu'évidemment, quand il y a un son très fort, très présent et indispensable sur une scène, si le compositeur balance une trompette là-dessus, évidemment, il va y avoir conflit, forcément. Donc là, c'est notre travail donc, du compositeur de tenir compte de ça, au même titre des dialogues. S'il y a un dialogue, on ne va pas mettre une trompette sur un dialogue intimiste, bon, vous voyez, etc. Je vous donne des exemples un peu extrémistes. Mais...
Oui, du coup, ça semble
relativement cohérent. Oui, mais quand on est composité, il faut savoir aussi tenir compte de ça.
Ça veut dire, à quel moment est-ce que, pour vous, le compositeur, j'imagine, intervient, son dialogue commence dès le scénario?
Pareil, plus on commence, plus on intervient tôt dans une production, évidemment, mieux c'est. Nous autres compositeurs, on est quasiment tous... Il y en a qui sont compositeurs dans la salle. Oui, un, deux, parfait, très bien. Donc, vous ne me contredirez pas, parce que maintenant, quasiment tous les compositeurs ont tous équipé plus ou moins d'ordinateurs, de sons plus ou moins sophistiqués qui imitent plus ou moins bien les instruments de l'orchestre. On fait des maquettes, bien sûr, sur scénario. Alors, après, cette maquette, elle va avancer tout le long du tournage, pendant toute la production. On va se retrouver au montage où on va prendre les temps des scènes, et puis on reprendra le thème qui avait été fait parfois des semaines avant, voire des mois avant, ou pas. Et donc, c'est après qu'on va véritablement voir si, en essayant sur le montage, si la musique fonctionne ou pas.
L'utilisation des paroles.
Parce qu'en fait, il y a un élément que vous n'avez pas au moment où vous composez, ce sont justement ce que vous mentionnez, c'est à savoir les effets, toute la masse des sons d'ambiance, etc. Vous n'avez pas forcément beaucoup que vous avez.
On les a dans l'enregistrement final.
Vous les aurez dans l'enregistrement final, mais pas au moment où vous composez. Donc vous pouvez très bien vous retrouver dans une situation, j'imagine que ça vous est déjà arrivé, où vous, effectivement vous mettez tel instrument qui va se retrouver en conflit avec ce que vous ne connaissiez pas en amont, à savoir des effets, un son d'ambiance très présent, vous
n'aviez pas fait. Je m'excuse, là je vous dis non parce que Parce que quand on travaille sur la lecture de scénario, on va effectivement faire une recherche de thème, une recherche de timbre, d'instrument, etc. On ne tiendra pas compte de ça, évidemment. Dans un premier temps, il s'agit de trouver une couleur, de donner un esprit, un thème à une idée scénaristique. Donc il n'y a pas encore de support visuel et sonore. Et donc ce travail-là, c'est après que le compositeur va véritablement faire un travail d'orchestration. C'est pour ça que je trouve que l'orchestration est un travail extrêmement important, parce qu'effectivement, on a une mélodie qui va durer, je ne sais pas, 1 minute 10, par exemple, je dis n'importe quoi, et à la 40e seconde, effectivement, il y a des éléments sonores prépondérants ou un dialogue prépondérant. C'est au compositeur de prendre ça, son thème, et dans le passage en question, eh ben, il ne faut pas que ce soit un coup de potentiomètre qui va évidemment baisser la musique. C'est justement, je vais presque me dire que ce n'est pas les bonnes musiques qui vont utiliser le potentiomètre. Non, une bonne musique de film, c'est justement à ce moment-là, dans l'écriture, dans l'orchestration et dans la réalisation, l'enregistrement, eh ben, on tient compte de ça.
Ça veut dire qu'au moment de l'enregistrement et du mixage de la musique lui-même, ça veut dire qu'a priori, les musiques sont déjà calées. C'est très précis.
Les musiques sont déjà calées.
Sont calées. Les extraits de musique, les 45 secondes de musique, elles sont déjà calées pour que l'enregistrement puisse moduler.
Vous parlez des maquettes, elles sont déjà calées. Les maquettes ne se calent pas. Les maquettes servent véritablement à donner une ambiance, un climat, une thématique pour souligner telle ou telle chose dans le film. Après, je dis, on part de ces maquettes-là, de ces éléments-là, et parfois d'ailleurs, ces éléments-là qui ont été faits avant, je crois qu'il y a des exemples, parfois ça ne marche plus du tout après qu'on ait les images, mais ça, c'est un autre problème. Mais si on part d'éléments qui ont été créés au départ, eh bien, on va effectivement les travailler sur, comme je viens de vous le dire, pour l'enregistrement avec des time codes, etc. On tient compte de tout ça. Il y a des temps pour bien caler la musique sur l'image avec les sons et les dialogues.
C'est une étape dont on ne parle pas, mais qui est la création des mélodies, par exemple, on peut généraliser ça comme ça, sur le scénario. Et après, il y a un travail entre le compositeur de la musique et le monteur image et le réalisateur pour savoir où il a envie de musique, où il en a pas envie. Et là, à partir de ce moment-là, on travaille à l'image.
Oui, mais on parle de la création, parce que c'est ce que je dis, parce qu'il faut créer un thème dès le départ. Mais c'est vrai qu'après, la concertation avec le monteur image, monteur son, réalisateur, tout ça, ça se passe devant une table de montage, et pour que la musique n'est pas là pour gêner, vous travaillez là pour apporter quelque chose. On a trop de soucis avec justement la musique américaine, qui sur des films de 2 heures, nous remplissent la bande son pendant des 1h50, voire plus. Bon, en France, le principe est très différent pour des raisons différentes, encore une fois, qu'on évoquera peut-être aujourd'hui, je ne sais pas.
C'est-à-dire
les contraintes budgétaires, commerciales, etc., ne sont pas les mêmes en France qu'aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, si on met 1h50 de musique sur 2 heures, votre avis, vous savez pourquoi ou pas? C'est parce qu'il y a un marché de la BO qui marche véritablement aux États-Unis et on remplit. Bien souvent, c'est ça. Pourquoi? Parce que le producteur qui finance la musique aux États-Unis est également l'éditeur de la musique. Ça veut dire que pour se renflouer, pour récupérer des sommes d'argent, ben, le producteur du film a intérêt de sortir une BO qui va le mieux marcher possible, puisque donc le compositeur a un cachet au départ aux États-Unis. Mais il n'y a plus de droits d'auteur, il n'y a pas de SACEM aux États-Unis. Ça veut dire qu'il va avoir ce qu'on appelle des droits mécaniques, 50% de la vente du disque. Et les 5 autres % seront pour le producteur. Tout le monde cherche évidemment dollar is dollar à se récupérer ce qu'on a investi. Parce que par contre, ça c'est plutôt positif. Nos Américains, quand ils investissent dans une musique, ben, ils investissent vraiment. Là par contre, ils savent y mettre les moyens. Que nous autres, on est très frileux sur la question.
Dans les films d'animation, il y a ce qu'on appelle les monteurs musique. Oui. Est-ce que vous êtes confronté à ça dans les films de fiction traditionnels avec des vrais acteurs?
Pardon, les films d'animation, les séries d'animation.
Les séries d'animation.
Oui, le principe est même, au lieu d'avoir un monteur son, on va avoir un monteur musique parce que le film d'animation, par essence même, les images vont raconter sur la musique. Donc, par rapport à un storyboard, par rapport à un scénario, eh ben, la musique qui va être effectivement demandée au compositeur, les images vont être fabriquées dessus. Donc, il y a toute une. C'est beaucoup moins contraignant pour le compositeur, bien sûr. Je veux dire, quand on travaille pour une musique d'animation, un compositeur, on est un peu plus libre. Il y a moins de contraintes.
Je pense qu'il y a, il y a, il y un autre aspect, c'est un aspect financier. C'est que pour une série de dessins animés, c'est pour ça que je vous demandais de préciser, pour une série de dessins animés, le compositeur en général fait du stock, ce qu'on appelle un stock, et après c'est monté par un monteur fond en fonction de l'arrivée de la série. Ce qui n'est pas le cas pour un long métrage qui était un prototype, qui est un objet ludique. Donc là, on peut peut-être aller plus vers une musique originale, quoi qu'il y a des séries où les gens qui composent la musique font aussi des...
C'est de la musique originale en général aussi.
Non, c'est de la musique originale aussi.
Donc elle sert de stock, au voilà. moment, quoi. Mais au début voilà. de la série, elle ne sert pas de stock.
Hein. Non, bien sûr.
Mais il y a des réalisateurs qui demandent à leur compositeur, non pas un thème spécifique pour telle scène, pour tel personnage, pour tel truc, qui vont commander, moi ça m'est arrivé. Bon, écoute, tu m'enregistres 30 ou 40 minutes de musique, voilà, je me débrouille. Et ça peut marcher.
Sans précision.
Et donc, dans ce cas-là, il prend un monteur musique dans ce cas-là. Ou il fait
non,
ça
lui-même avec le monteur image et le monteur son.
Quel est le rôle très particulier du...
Mais ça peut marcher. Ça peut marcher.
Le rôle très particulier du monteur musique, où je n'ai jamais eu la chance de ça existe pas en France.
Moi, j'en ai vu sur des séries. Du TF1, j'ai bossé sur Seconde Chance. Il y avait un monteur musique, il y a un monteur direct, spécialisé, et un monteur musique.
Et son rôle, c'était de mettre la musique au bon endroit, de
choisir. Voilà, c'est ça, oui, c'était du stock, il y avait du stock, qui s'est un peu étoffé au fur et à mesure, mais au départ, oui, il y a eu. On avait compté que c'était sur. Les sentiments pour TF1, c'était sur 4 bits.
Les sentiments, c'est sur 4 bits, d'accord.
Non, pas parce qu'il y avait. Il y avait un certain nombre de. Il y avait la tristesse, la colère, etc. Donc, c'est caricatural.
Il y a un nouveau métier dans le métier de la musique de film qui existe déjà depuis assez longtemps. Quand je dis un nouveau métier en France, puisqu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a, je crois, trois répertoriés, je crois, peut-être quatre, ce qui n'est franchement pas beaucoup, et qui est pratiquement dans toutes les productions américaines, je ne sais plus d'en reparler, mais c'est quand même des jeux productifs. C'est le poste de, qu'on appelle aux États-Unis Music Supervisor, qu'on a appelé en France consultant musical. Ben, le consultant musical, qui est un, là, je dis, il n'y en a que trois en France, je trouve que ces types-là sont très importants et très utiles parce qu'on va leur demander, un, d'avoir une vraie culture musicale, c'est hyper important, on est très en retard sur la question à l'école. Bon. La culture musicale est très importante, autant pour les réalisateurs que les compositeurs que les cinémas. Donc la culture musicale est importante, mais aussi le savoir de comment fonctionne une musique. Quand il va écouter une musique, il va entendre tel ou tel instrument, il saura que ça pourra ne pas faire conflit avec certains sons dans le film, certaines voix, dialogues. Donc ce consultant musical-là, moi j'en connais deux qui font très très bien leur travail dans la matière, justement vont aider le compositeur, le monteur d'image, etc. à bien caler la musique.
Mais le monteur musique, c'est intéressant aussi, j'en ai vu évoluer quelques-uns, et c'est intéressant leur position parce qu'ils peuvent servir de tampon entre le compositeur et le réalisateur, et parce que parfois la communication, c'est quand même une langue, la musique, donc la communication ne s'établit pas au mieux,
tampon. Excusez-moi. Est-ce que c'est un rôle que tu es amené à jouer en monteur son ici en France? Décider où est-ce que se met la musique, toujours en accord avec le compositeur. Est-ce que il arrive que le réalisateur ait telle idée et que vous puissiez décider, lui faire comprendre qu'il y en a d'autres qui sont meilleurs?
Alors, l'exemple de la musique, c'est un truc très sensible, c'est très politique en fait. Parce que on a. Oui, c'est politique. C'est un moment où on ne touche plus à la technicité, plus il y a un rapport artistique, ce qui rend les dialogues très compliqués. C'est Franck Zappa qui disait parler de musique, c'est comme danser de l'architecture en fait. C'est-à-dire que c'est très difficile de parler de la musique. Surtout avec des gens qui n'ont pas forcément fait les études de musique, et ainsi de suite. Ils vont dire, si moi, je veux une musique triste, je veux une musique gay, je veux de l'attention, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ou de l'angoisse, ou je veux que la musique soit vraiment dans ce moment-là. Et pour des contingences, on va dire, très souvent financières et dues à l'organisation, les musiques vont être enregistrées à la deadline possible. Elles vont parfois être enregistrés avec une image qui n'est pas celle qui sera l'image finale. Et on a un processus de, parfois de réadaptation de la musique qui est enregistrée au film tel qu'il est au moment du mixage. Et effectivement, aux États-Unis, le problème ne se pose pas parce que syndicalement, il fait un monteur de musique. Il n'y a que lui qui est autorisé à toucher à la musique et personne d'autre. Et bon, personnellement, j'ai vu de mes yeux vus, donc je peux en témoigner. En France, c'est pas comme ça. C'est en France, il y a, bah tiens, il y a Jérôme qui est là, il sait ça donne la machine, il va couper la musique. Et on a le droit, bah tiens, si on mettait la M206 à la place de la M304. Bon, on le fait. Alors, des fois, on a de la chance, on a un son qui a fait de la musique, qui sait en fait temps fort, un temps faible, qui vous montre ça bien. Et puis des fois, on n'a pas de chance. Et voilà. Parce qu'en France, on a, pour parler des États-Unis, on a quelque chose qui est formidable, qui est ce côté très artisanal, on fait ça entre nous, on est quatre dans l'auditorium, il y a une hiérarchie flottante, tout le monde se fait la bise, tout le monde se tutoie. Et c'est très sympa. Aux États-Unis, il y a les syndicats qui sont très puissants, et le monteur son fait du montage son, le mixeur fait du mixeur, le monteur parle au monde de la parole, le producteur exécutif décide de tout, le monteur musique touche à la musique, et personne ne va interférer dans les compétences de l'un ou de l'autre. Donc il y a un processus industriel qui est très très fort en fait, que nous on n'a pas, nous on a quelque chose de très, très latin en fait. Donc, ce qui fait que moi, j'ai vu des films où c'est le mixeur qui monte la musique, il y en a où c'est le monteur son, il y en a où c'est le monteur image. Voilà, c'est l'air du temps. Et c'est très bien. Hein.
Mais c'est pareil pour les jeux à compositeurs. Aux États-Unis, moi je rejoins complètement ce qu'il vient de dire. Aux États-Unis, un réalisateur ne peut pas prendre n'importe qui comme compositeur. Il n'a pas le choix.
Donc, si je reviens à ma pratique.
Excuse-moi, je vais finir mon raisonnement. Il n'a pas le choix. Pourquoi ? Parce que les compositeurs aux États-Unis, accrochez-vous bien, ont une valeur marchande. C'est ça, c'est terrifiant, mais c'est la vérité. C'est-à-dire qu'un réalisateur, quand il va faire un film, d'accord, il va évidemment prendre un producteur, et le producteur, en fonction de son budget, il va dire voilà, j'ai tant, j'ai 10 000 dollars, j'ai n'importe quoi, j'ai 10 000 dollars pour ton compositeur. Donc tu débrouilles avec les 10 000 dollars. Donc là, après, le réalisateur, il va aller voir des syndicats, hein, des producteurs, des agents, en fait. Syndicats, c'est un peu l'équivalent d'agents artistiques en France, sauf que j'ouvre une parenthèse pour dire que les agents artistiques en France ne s'occupent pas de compositeurs, voire des 4-5 stars en France, mais sinon les autres, c'est que du copinage, du relationnel, vous voyez, c'est ça la grande différence. Donc là-bas, c'est pas ça. Effectivement, il va aller dans un syndicat, il va choisir en écoutant des musiques, en rencontrant des compositeurs, en fonction de l'enveloppe budgétaire qu'il a. Je vous assure, c'est comme ça que ça se passe.
Et en France, quelle est la meilleure manière, d'après vous, jeune réalisateur qui fait son premier long, des choses comme ça, ou qui, voilà, le compositeur que j'ai eu sur mon cours, c'était pas bien, je voudrais changer. J'écoute des musiques qu'un tel a faites, je regarde des films et je choisis en fonction de ce que j'aime.